Je suis très heureux de vous retrouver sur La Nouvelle Génération. Bonjour, merci de nous choisir dans cette émission Club de la Presse. 8 ans après son départ du pouvoir, John Dramani Mahama fait son grand retour à la tête du Ghana, l'une des démocraties rassurantes du continent africain. Lors de son investiture hier, en présence de plusieurs chefs d'État africains, dont le Togolais Fornia Singbe, le nouveau président a pris des engagements pour la relance de l'économie ghanéenne et aussi pour une CDAO plus unie et efficace. Nous parlerons du sujet dans cette émission Club de la Presse de ce mercredi 8 janvier 2025. Nous aborderons certainement d'autres sujets liés à l'actualité tels qu'évoqués par des journaux parus ce matin dans les kiosques. Bienvenue au Club. Pour la coordination de l'émission de ce jour, Kiki Sosa sur la mise en onde. La mise en ligne est assurée par Gérard Akucha. Je suis Pascal Lousseau au micro. Salutations fraternelles à vous tous qui nous suivez partout au Togo grâce à nos radios partenaires. Radio Lumière à Anéro, Radio La Paix à Takpamé, Central FM à Sokodé, Sky FM, nous sommes à Badou, Radio Daoul à Bassa, Sama FM à Niamtougou et puis Radio Courtoisie à Dabang. Vous avez aussi ce privilège de nous suivre partout dans le monde grâce à nos différentes plateformes digitales, notamment notre chaîne YouTube et aussi notre page Facebook. Vous pouvez aussi nous suivre sur nos radios partenaires en ligne, Ibn Radio et Radio Le Bénin. Club de la Presse, c'est le décryptage, l'analyse et le débat sur l'actualité de notre pays, du continent africain et aussi du monde entier. C'est avec nos confrères ou mes confrères journalistes en studio avec moi et déjà celle qui représente bien les femmes. Alors, dans ce studio, c'est Estelle Koudzounou. Estelle, bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour aux confrères en studio, bonjour aux techniciens. Je n'oublie pas les lecteurs de Gazelle Info, les auditeurs et auditrices de Canal FM. C'est la première fois de venir ici depuis l'année 2025. Même si je ne suis pas coutumière des vœux, je voudrais bien souhaiter à tous et à chacun mes meilleurs vœux de l'année nouvelle, et la santé surtout. Et quand la santé y est, on se débat pour le reste.
C'est l'essentiel quand la santé y est, on se débat justement pour le reste. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Abassi Saka, bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour à tous les auditeurs et auditrices de la radio Canal FM. Bonjour aux confrères ici présents, aux techniciens. Moi, j'aime pas beaucoup de choses à dire parce que le vœu, c'est toujours répétitif. Mais on est comme ça. Seulement, ce qu'il faut dire, c'est la santé.
C'est la santé.
C'est la santé, rien que la santé. Puisque à chaque moment, on se dit veut.
Mais est-ce que ce n'est pas parce que c'est rentré dans les habitudes de telle enseigne que, allez, on ne le néglige plus. Il faudrait quand même que tu le fasses aussi pour que l'autre se sente mieux.
Oui, il faut le faire. Et en le faisant, il faut lui souhaiter la bonne santé et longue vie. Mmh. Après, le reste viendra.
La bonne santé, une longue vie.
C'est ça, le reste va venir.
Le reste va venir. Alors, l'autre qui rejoint l'équipe à l'heure de mercredi, désormais, c'est bien Isaïe Edo. Isaïe, bonjour. J'espère que vous allez bien. Il semble que votre micro n'est pas ouvert. Vous pouvez y aller maintenant. Bonjour Isaïe.
Bonjour Pascal. Bonjour
auditeur. Toujours, votre micro a toujours son problème. On va vous faire déplacer. Vous pouvez rester. Alors, voilà, justement, vous allez devoir rester dans le siège à côté. Alors Isaïe, bonjour.
Oui, bonjour Pascal.
J'espère que vous allez bien.
Oui, je vais bien. Je vais super bien. On rend grâce à Dieu.
Vous retrouvez, vous regagnez l'équipe à l'heure du Club de la Presse, notamment à l'heure de mercredi. Et ça, je pense quand même que c'est aussi un devoir journalistique.
Oui, un devoir journalistique de revenir au club après 3 ans, je crois, d'absence. Et c'est aussi un plaisir de revenir au Club de la Presse.
Justement, le plaisir est partagé de t'accueillir aussi hein, dans ce studio. Je rappelle que vous êtes alors le rédacteur en chef alors de Focus Info.
Bien sûr.
Focus Info, dont le directeur est Jean-Paul Agbo-Ahouelété. C'est bien ça.
Oui, que nous saluons au passage.
Justement, nous le saluons au passage. Et ça fait toujours plaisir de vous avoir dans cette émission. Alors, bien sûr, nous commençons cette émission avec Un certain nombre alors de sujets, bien sûr, il y a beaucoup de journaux qui sont dans les kiosques ce matin. Il y a le journal La Dépêche hein, qui est dans les kiosques ce matin, le journal Le Messager dans les kiosques et aussi le journal Le Libéral également dans les kiosques ce matin. On peut retrouver autre journal, c'est La Lanterne aussi, le Triangle des Enjeux aussi dans les kiosques ce matin. Autre journal que nous pouvons retrouver dans les kiosques, c'est le journal Le Bâtisseur. Le journal Le Bâtisseur qui aussi est dans les kiosques et aussi le journal Planète Écologie dans les kiosques, bien sûr. Alors, on commence, bien sûr, cette émission par ce sujet dont on parlait hier concernant cette décision ou ce recadrage alors du ministre de l'administration territoriale par rapport alors au chef quartier, chef du village et pour ce qui concerne le fait alors de ne pas hisser ou qu'il est interdit alors au chef quartier du village également de hisser des drapeaux alors dans leur parler et seuls ceux qui sont autorisés c'est les chefs cantons. Alors Estelle Koudzornou, quand vous analysez ceci, ce n'est qu'un recadrage quand même.
Oui, un recadrage mais qui nécessite des interrogations. Je me demande d'abord en tant que citoyen, par patriotisme, je reconnais bien que ça fait partie des emblèmes de la nation. C'est l'un des signaux forts d'une nation. Mais quand on est chef quartier, on a quand même on est investi d'un pouvoir et il y a une autorité qui régit en fait les agissements et puis tout ce qui se déroule sur ce ressort territorial. Mais non, la décision du ministre, les motivations réelles, on aurait aimé avoir plus d'explications qui amènent à ce recadrage-là, mais on est resté un peu sur la soif. En revanche, je reconnais que les chefs cantons sont en un processus de désignation avec un pouvoir central dont là, ils leur reconnaissent tout de suite que seuls eux ont le droit de hisser leur drapeau. Mais en tant que citoyen, quand on est patriote, on peut brandir parfois le drapeau chez soi,
mais pas le hisser quand même.
On pas le hisser, mais en tant que chef quartier, je me demande réellement si, enfin, je veux bien comprendre. Je veux bien comprendre les tests qui ont amené à ça. Et puis depuis là, pourquoi on a laissé faire et c'est maintenant que ce recadrage intervient? Est-ce qu'il y a un abus d'autorité derrière qui ne dit pas son nom? Est-ce qu'on fait mauvais usage de ce drapeau-là qui est ici en tant que chef quartier? Il y a ces explications qu'on aimerait bien avoir pour étayer les explications ou mieux encore cette interdiction de hisser le drapeau au niveau des chefs quartiers.
Alors, si le ministre fait un recadrage, ça veut dire forcément qu'il y a un souci.
Oui, parce que on ne peut pas faire recadrage sans inquiétude. Il y a un souci, c'est pour cela que le ministre a recadré. C'est tellement qu'il y a une mauvaise utilisation ou un mauvais usage des emblèmes, des armoiries de la République par ses chefs de quartier. Vous allez voir que vous arrivez dans un village, chacun se dit que chef quartier, il plante le drapeau. J'étais dans un village quelque part, il y a un drapeau là, on dit que c'est cher, le chef quartier, et de l'autre côté, à quelques 500 km de là, il y a encore un autre drapeau ici, c'est dans le Yoto ici, et on nous dit que c'est chef de quartier. Donc s'il y a de ces genres de situations qui se présentent, je pense qu'il faut recadrer la situation si on utilise mal au niveau de ces chefs, parce que lorsqu'on dit on nomme un chef quartier. Le chef quartier, est-ce qu'il a la même valeur que le chef canton?
Mais c'est l'accord reconnaît. Oui, en fait, Abbas, quand on écoute les appellations, déjà en Évée, les chefs quartiers et chefs du village sont appelés des togui. et les chefs cantons, c'est Tobigan. Voilà. Donc, il y a déjà une différence.
Il y a déjà une différence. Oui. Donc, cette différence fait qu'aujourd'hui, il faut regarder. Mais maintenant, ce qu'il faut faire, c'est que le ministre de l'administration territoriale devrait expliquer et argumenter le pourquoi les chefs quartiers là ne doivent pas porter. Parce qu'il faut informer les gens, communiquer sur cette situation pour qu'il n'y ait pas de confusion. Pour que les gens ne se demandent pas pourquoi tel chef... Puisque quand vous voyez les commentaires des uns et des autres, les gens disent que pourquoi on va interdire ces chefs-là, on interdit aux chefs quartiers, puisque quand il va arriver dans un village, c'est par le drapeau qui est ici, dans la maison, que tu sauras que c'est un chef.
Mais justement, est-ce que ces gens-là aussi n'ont pas raison? C'est-à-dire, quand on arrive dans un village, il faudrait quand même qu'on ait un symbole pour reconnaître que oui, et le chef qui est en quelque sorte le premier des habitants est ici.
Et ils ont raison. Il y a des chefs villages, il y a des chefs quartiers, il y a des chefs cantons. Est-ce que c'est le vrai chef à qui il faut s'adresser? Comme je l'ai dit tantôt, dans un village où moi j'étais allé voir, c'est qu'il y a deux drapeaux dans deux maisons différentes et chacun s'appelle.
Est-ce que ça veut dire qu'il y a deux chefs
des chefs dans le quartier qui se contestent et chacun a sa population?
Mais là, donc, ça devient un autre problème.
Je crois qu'il faut remonter même à la désignation des chefs quartiers. Comment est-ce que c'est encadré? Comment est-ce que ça se fait? Je crois que la réponse même viendra de, par exemple, par rapport à ce qu'évoque le confrère, comment est-ce qu'on peut avoir deux chefs quartiers dans un même quartier? Ça sort un peu de l'ordinaire. Puis, le processus de désignation même des chefs, comment ça se fait? Comment cela est encadré? La reconnaissance qui est due après.
Il fallait qu'on explique. Réellement, est-ce que les chefs quartiers sont désignés par arrêté ministériel? S'ils sont désignés par arrêté ministériel...
Non, c'est les chefs cantons qui sont justement désignés.
C'est les chefs cantons qui sont désignés par arrêté ministériel.
Voilà.
Le reste, c'est des gens des quartiers qui vous désignent comme vous êtes chef quartier.
Est-ce qu'il n'y a pas un autre processus après?
Bon, c'est ça qu'il faut...
Il y a une reconnaissance quand même.
Il y a une reconnaissance,
De l'État.
Sauf cela, j'ai dit, le ministre de l'administration territoriale devrait argumenter et expliquer sa décision, son arrêté là, qui leur interdit de mettre les drapeaux dans leur maison. Pourquoi elle a dit ça? Certainement, il y a quelque chose qui s'est passé. Et quand on explique, les gens vont comprendre. Mais si on prend une décision sans argumenter comme ça c'est difficile aux populations et à l'opinion de comprendre le pourquoi. Donc, quand on prend une décision, il faut l'expliquer et communiquer tout autour pour que les gens sachent que voilà les raisons pour lesquelles ceux-là ne sont pas autorisés à mettre le drapeau. Parce que tout Togolais que tu es, en tant que patriote, tu as l'obligation, si tu veux, porter un drapelé. Pendant même les matchs de foot, les gens portent des drapelés. Même dans les marches, au cours des matchs, les manifestations, les gens même s'habillent même avec le drapeau togolais. Tout ça, c'est le patriotisme. Mais un chef quartier, pourquoi lui, on lui interdit de mettre ce truc? Donc, il appartient au ministère de l'administration territoriale de nous expliquer, de nous donner les raisons.
D'accord. Esaïe, est-ce que ce recadrage du ministre de l'administration territoriale, est-ce que vous avez vraiment l'impression que ce recadrage manque de pédagogie?
Pédagogie, je ne saurais le dire. Mais je crois que nous nous efforçons à faire un exercice dans la mesure où le ministre ou encore celui qui a pris la décision n'a pas donné en tout cas les raisons qui ont motivé cette décision-là. Donc dire tout de suite que ça manque de pédagogie dans une certaine mesure, puisqu'aujourd'hui on ne comprend pas, est-ce que les chefs en question à qui on a interdit d'hisser les drapeaux, est-ce qu'ils en savent quelque chose? C'est la grande question que tout le monde se pose et c'est pour cela que je disais tout
mais
à
mais
l'heure.
Mais il semble que c'est une décision qui existait depuis, hein?
Alors, si cette décision existait depuis, là, on parlera de pédagogie. Dans la mesure où on n'a pas expliqué aux gens, on n'a pas amené les gens à comprendre le pourquoi la décision a été prise depuis et que ce n'est pas appliqué, que c'est maintenant qu'on décide de son application. Donc, si la décision existe depuis, naturellement, on parlera de manque de pédagogie. Et je crois que c'est ce qui arrive souvent quand on prend certaines décisions. Il n'y a pas la pédagogie qui suit et ça pose problème après.
Et il n'y a pas la pédagogie qui suit et ça cause vraiment problème par après. Oui, mais je posais la question à Abbas tout de suite. C'est vrai, je posais la question à Abbas. Mais quand on prend ce recadrage du ministre, est-ce que ce n'est pas parce que il y a un souci, il y a un problème de la part, surtout alors de, c'est peut-être tel que vous l'avez dit, soit des trafics d'influence ou des abus de pouvoir, des gens quand même qui ne sont pas alors des chefs cantons, mais qui s'érigent en chef canton ou qui se montre alors un chef canton et agit en tant que tel.
Bien évidemment, il n'y a pas de décision ex nihilo. Le ministre, c'est une autorité de l'État. Il ne peut pas se lever, prendre une décision comme ça ex nihilo. Sauf comme tout le monde l'a dit, ce que nous déplorons, c'est que cette décision ne soit pas vraiment motivée par des explications, des raisons explicites qui permettent à tout le monde de comprendre tout à l'heure aisément pourquoi cette interdiction est faite. Et l'autre interrogation, c'est de savoir pourquoi depuis fort longtemps, on a laissé faire. Si la décision existait depuis, pourquoi quand on a constaté dans 1, 2, 3 quartiers que les chefs quartiers ont commencé par hisser le drapeau, pourquoi on n'a pas suivi tout à l'heure, pourquoi on n'a pas rappelé ou pourquoi on n'a pas mis à l'ordre du jour cette décision, on a laissé faire pendant tout ce temps et c'est maintenant on en parle. C'est pourquoi j'ai toujours évoqué moi la rigueur. Parfois on a comme impression que l'État en fait de trop, mais si dès que la loi est votée, elle s'applique à tout le monde. On doit faire l'effort de la respecter. Et quand il y a des dérives, il ne faut pas laisser faire avant de sévir. C'est ce qui fait croire que non, on abuse ou on en fait un peu de trop. Mais la loi existe, personne n'est censé l'ignorer. Peut-être nous avons manqué nous aussi d'aller plus à l'information par rapport à ça, mais on va essayer de le faire pour mieux informer les prochaines fois. Cette décision s'est tombée comme ça sur dans la place publique. On a sincèrement, je me pose toujours des questions, mais il faut quand même reconnaître que le ministre ne peut pas se lever comme ça et faire cette interdiction. Je reviens encore à l'exemple qu'a donné mon confrère tout à l'heure. Si dans un seul quartier, il y a 2 drapeaux déjà, comment est-ce que les habitants de ces quartiers-là savent comment est-ce que le chef est choisi, quand le chef est choisi, désigné par la suite? Comment est-ce que la reconnaissance se fait dans tout le quartier pour que le quartier sache que c'est lui le chef qui est vraiment reconnu et ce n'est pas l'autre? Si tout le monde va se lever et hisser le drapeau, et comment peut-on reconnaître celui qui est légalement reconnu et ce qui ne l'est pas? C'est ce qui se passe dans le cas qu'a donné tout à l'heure Abbas. Donc, je crois qu'il y a forcément une motivation et vivement que le ministre revienne sur plus d'explications pour donner plus de motivation pour qu'on soit vraiment informé.
D'accord. Abbas, on va quitter le sujet. On s'intéresse à un autre sujet. Un sujet que nous donne le journal La Dépêche. Le journal La Dépêche écrit à sa une: Patia Nyasingbe fait 16 ans en prison. Quelle est la gravité du crime pour ne pas penser à l'apaisement et la réconciliation de famille Nyasingbe? C'est une interrogation alors du journal La Dépêche. Alors, Abbas, c'est vrai, nous avons tous ensemble suivi ce procès alors dans ce pays, bien sûr, le procès Patia Nyasingbe et ses co-accusés. Et aujourd'hui, il y a le Patia Nyasingbe qui fait pratiquement 16 ans en prison. Et il faut quand même dire que la peine, c'est 20 ans de prison. Et il y a aujourd'hui le journal qui pose cette question. Est-ce que vraiment cette question ne mérite pas d'être posée?
Ah oui, la question mérite d'être posée. Et je pense que ce n'est pas peut-être le seul journaliste qui se pose cette question, mais il y en a dans l'opinion, les gens se posent cette question qu'il a fait 16 ans. Mais on se demande, elle a été jugée, condamnée déjà. Est-ce que il y a une grâce? Il y a demande de grâce, parce qu'en principe, les avocats devaient introduire une demande de grâce présidentielle, voir si le chef de l'État va lui accorder cette libération, liberté. Donc aujourd'hui, depuis, il y a eu des débats tout autour de ça. Il y a eu des conciliations qui ont été faites. Même des chefs, quand on se sont mis dans cette histoire pour demander pardon. Mais c'est la peine au niveau du chef de l'État, peut-être que c'est la justice qui a décidé. Et il doit exécuter. Mais seulement lorsque, au niveau du tribunal, lorsqu'on vous condamne, à une peine et que vous faites la moitié, sûrement que on va vous on peut vous libérer parce que vous avez
gracié, voilà.
Non, pas gracié, mais ça, on va vous élargir lorsque vous faites la moitié de la peine. Mais pour monsieur Pacha Nyasimbe, on ne sait pas exactement ce qui se passe. On dit, bon, s'il y a eu une grâce qui a été demandée, introduite par les avocats, ça peut se faire. Et on va dire qu'il y a une grâce qui a été introduite. Parce que pour le moment, moi, à ma connaissance, je n'ai pas encore vu s'il y a, au niveau des avocats de M. Pacha Nyasimbe, une demande en grâce, de grâce pour que leurs clients puissent sortir de là. Mais le problème qui se pose, cette affaire, c'est tellement que ça dépasse tout le monde. Ça nous dépasse, même à notre niveau, ça nous dépasse. On ne sait pas exactement ce qui se passe. Il faut le laisser purger toute sa peine. Il reste 4 ans. Il a fait 16 ans, c'est 20 ans de prison. On a suivi tout le processus du procès. Lorsque nous étions là, on a vu les témoignages. Parce que les co-accusés et les co-condamnés, certains, beaucoup d'entre eux ont été libérés. Et certains même sont décédés dans cette histoire. Pacha Nyasimbe même entre-temps avait été amené au niveau de Cabanon, on l'avait envoyé même au Gabon,
à Libreville
pour des soins. Donc quand c'était arrivé en ce moment là, quand il était allé au Gabon, les gens pensaient que peut-être que c'est une façon de faire tout pour que au moins il soit libéré. Mais finalement, lorsque les élections se sont annoncées via le coup d'État et autres au niveau du Gabon, on l'a ramené au Cabanon. Donc on espère que d'ici là, les avocats ou bien lui-même va introduire une grâce, une demande de grâce présidentielle pour que le chef de l'État puisse lui accorder cette grâce présidentielle.
D'accord. Esaïe, est-ce que quand on prend ces différentes tractations qui sont peut-être faites, et on a vu même d'ailleurs, tel que Abbas l'a dit, des co-accusés qui ont été libérés, est-ce que ça veut dire qu'au fin fond, ce problème dépasse les bornes et nous dépasse aussi?
Oui, ça nous dépasse parce que, au-delà de tout, c'est une question de volonté. La volonté, parce que la personne qui va aujourd'hui dire « Ok, je vous gracie », cette personne, il faut que cette personne ait cette volonté-là. Du moment où cette personne n'a pas cette volonté, nous autres, nous ne pouvons que commenter, nous ne pouvons que demander, peut-être joindre nos voix à celle du concerné pour demander qu'il soit gracié. Mais au-delà de tout, c'est une question de volonté. Volonté de la part du chef de l'État qui aujourd'hui est la seule personne qui peut décider, qui accorde plutôt la grâce à son demi-frère, puisque c'est aussi une question de famille. Et le confrère Abbas l'a dit, il y a des personnes âgées, des sages qui ont intervenu.
Question de famille, mais on parle plutôt alors de question d'État.
Oui, question d'État, mais mêlée un peu à la famille, on est d'accord. Que c'est la famille Nyasimbe après tout. Donc il y a les sages qui ont intervenu. Du moment où les sages ont intervenu et qu'on n'a pas encore de suite, ça revient à une question de volonté d'une seule personne.
D'accord. Il y a le journal Triant des Enjeux qui, à chaque parution, revient toujours alors sur le temps passé par Pacha Nyasimbe, co-accusé en prison. Et le journal dit 15 ans, 8 mois, 21 jours de détention arbitraire de Pacha Nyasimbe, 15 avril 2009, et du colonel Ati, ça suffit, monsieur Fort Nyasimbe, fait comme Gbagbo et Ouattara. Alors, finalement, aujourd'hui, est-ce que, avec cette question à l'ordre du journal La Dépêche, on ne mérite pas alors d'aller vers la conciliation ou la conciliation, bien sûr, ou la médiation?
Oui, on ne peut que souhaiter ça, la conciliation ou la médiation. C'est le souhait le plus ardent. Mais c'est une affaire de famille qui se mêle à une famille d'État. Et aujourd'hui, nous sommes tous accrochés à une seule personne, à la personne de Fort Nyasimbe. Donc, il a la décision finale. Mais en même temps, il peut se dire que c'est la justice qui a pris une décision et qui ne veut pas influencer la décision de la justice pour qu'on ne dise pas qu'il empiète sur les autres pouvoirs. Donc, mais on reconnaît également qu'il gracie chaque fin d'année d'autres prisonniers. Donc,
c'est pratiquement 1,064
qui ont été libérés en fin de peine quand même, qui ont été graciés. Donc, il a le mot final, il a la décision finale, mais on va plutôt prier pour qu'il y ait conciliation. On ne peut pas prôner la division ou de la dichotomie. On va essayer on va prier pour qu'il y ait conciliation, pour que Monsieur Pacha Nyasimbe puisse aussi recouvrer sa liberté.
Alors, est-ce que déjà cette mésentente, allons-nous dire, ou cet incident, est-ce que ça n'entache pas quelque chose déjà, ça n'apporte pas un coup déjà au lien fraternel de la famille?
Est-ce que ça, là, c'est une question à poser? Ça avait porté de cloche que ça, l'affaire a commencé. Maintenant, dans la famille, certainement, moi, je ne veux même pas qu'on parle de la famille, division familiale, parce que quand M. Pacha Nyasimbe a été arrêté, on a parlé de
atteinte à
la sûreté de l'État.
Voilà, c'est ça concerne plus l'État.
Oui, c'est ça qu'on l'a jugé. Quant à ce qui est de la famille, moi, je ne peux pas en parler. Ça va porter un coup à la famille ou pas. Là, ce n'est pas chose. Mais ça porte un coup à la famille. Peut-être qu'on aurait déjà entendu qu'il y a des couacs au niveau de la famille, division, etc. Mais je ne pense pas. Donc, lorsque le chef de l'État, Fonya Singwe, a pris le pouvoir, vous avez vu comment les deux étaient ensemble. On appelait le numéro 1, le numéro 2. Et tout c'était. Donc, c'était devenu comme. Il y a eu de logo quelque part, donc il fallait. Lorsque c'est comme ça, il fallait que quelqu'un puisse arrêter quelqu'un pour monter. Donc, cette histoire, quand on parle d'atteinte à la sûreté de l'État, qu'on s'en tienne là, à cette histoire de cette question d'atteinte à la sûreté de l'État, c'est sur ça qu'il a été jugé. Parce que, au niveau même du tribunal, on n'a pas évoqué les liens familiaux de cette. On a vu tous les témoins qui ont défilé. On a vu ceux qui sont passés, les Rock Nyasimbe, qui sont venus aussi faire des témoignages. Bon, ils n'ont pas évoqué cette histoire de division au niveau de la famille. Le reste, si la famille est divisée ou pas, c'est que ça concerne la famille. Aujourd'hui, ce que nous demandons, il faudrait que peut-être avec le temps que Pacha Nyasimbe a fait en prison, ce temps, même, il a déjà fait la moitié de sa peine depuis.
Plus de la moitié.
Depuis plus de la moitié de sa peine. Donc, si, comme les uns les autres le disent tout à l'heure, si la volonté y est, le chef de l'État peut lui accorder cette grâce présidentielle même. Donc, ça dépend. Je ne sais pas, hein, parce que les gens disent qu'il y a d'autres affaires en sourdine qu'on ne peut pas évoquer ici. Donc, on attend de voir si le. Pacha Nyasimbe arrive à purger sa peine à la fin de ses 20 ans. Peut-être qu'on est en train de parler, il ne va pas arriver à ça. Donc on le souhaite, c'est la prière de tout le monde pour que M. Pacha Nyasimbe, qui a fait beaucoup à la prison et qui a eu même des maladies, avec on a même failli lui amputer un pied. Donc je pense que ça va au moins être. Amener au moins le chef de l'État à lui gracier.
D'accord. Esaïe, ça va nous amener à parler politique. Politique, on parle de la DMK. La DMK, déjà il y a une conférence à l'ordre de presse anniversaire qui a été animée tout récemment. Et le journal L'Antenne qui écrit « Conférence de presse anniversaire, la DMK exige un Front National de Libération pour sauver le Togo en 2025 ». Et quand on prend le sujet tel que cela est libellé, alors est-ce que déjà pour 2025, créer un front pour la libération, pour sauver le Togo en 2025, est-ce que ce ne serait pas un front de plus, Esaïe?
Oui, justement, je me pose la même question. Qu'en est-il des autres coalitions, les associations qui ont été mises en place dans le passé pour libérer le Togo entre griffes, parce que c'est leur objectif. Donc, si on en crée encore aujourd'hui, naturellement, c'est un de plus. Maintenant, la question est de savoir qu'est-ce que le fonds qui va être mis en place aujourd'hui, quelle sera la particularité ou encore la nouveauté, quel sera ce que ce fonds fera de différent que les autres structures ou encore associations, organisations qui ont été mises en place dans le passé. C'est là la question. Maintenant, si la DMK qui demande cela a une idée claire de sa demande, là on peut comprendre. Mais s'il s'agit de créer encore tel qu'on avait créé dans le passé, moi personnellement je ne vois pas la nécessité. Je me dis plutôt que ça va être un front de trop et finalement, comme on le dit, les mêmes causes produisent les mêmes effets, ils feront la même chose et le résultat, on n'en aura pas parce que les autres qui ont été créés, parce qu'ils ont fait les mêmes choses, on n'a pas eu le résultat.
Finalement, est-ce qu'on n'a pas l'impression qu'au niveau de l'opposition, on crée des fronts, on crée justement des regroupements pour la libération entre griffes alors du Togo, mais finalement, le Togo, allez, cette libération ne vient jamais.
Aussi faut-il questionner d'abord la survie même de ces fronts-là, de ces regroupements, puisqu'on a assisté à plusieurs créations de fronts qui n'ont pas survécu autant. Hein. Je ne vais pas commencer par les citer ici, mais la principale interrogation, c'est de savoir qu'est-ce que ce nouveau front qui est annoncé va servir de nouveau. Qu'est-ce qu'il va faire de nouveau? Et quand on parle de lutte, quels sont leurs moyens d'action aujourd'hui pour pouvoir libérer le Togo comme ils le disent? On a comme l'impression que ça devient des effets d'annonce où on déclare juste des choses sans vraiment, je veux pas être trop dur, mais que ça manque un peu de sincérité. Et il ne suffit pas de faire juste des déclarations. Il faut mener également des actions concrètes qui puissent mobiliser ou motiver également les populations. Aujourd'hui, je ne sais pas si l'opposition même fait un point par rapport à la mobilisation des populations derrière elle. Les populations sont également fatiguées. On a comme impression qu'on sert les mêmes choses et on attend des résultats différents. Mais bon, on est en début d'année, je ne veux pas aller fort. Attendons de voir. Nous sommes en début d'année, ils ont fait des annonces. On attend de voir peut-être mi-année. On verra ce que ça va donner. Un an, ça va bientôt passer. On fera encore le point à la fin de l'année. Donc, authentic, tout simplement.
D'accord. Alors, Abbas, c'est vrai qu'il y a beaucoup de fronts. On connaît vraiment beaucoup de fronts, surtout au niveau de l'opposition. Et finalement, le bilan de ces fronts, ou du moins des activités alors de ces fronts, n'a pas été fait à la population.
Oui, je pense que quand quelqu'un sort, il veut aussi se faire entendre. Et qu'on sache que lui aussi, il existe. C'est pour ça que les gens disent front. D'abord, moi, je veux qu'on me fasse le bilan, le point de la situation de la dynamique. Le dernier front monté par Monseigneur Poudjou Paix à son âme et dirigé par Abouemo Kojo Paix à son âme. Qu'est-ce que cette dynamique-là est devenue? Est-ce que, au cours de la conférence, je n'étais pas à la conférence de presse, est-ce que lors de la conférence de presse, on a fait cette situation, puisque finalement cette dynamique s'est divisée en deux, s'est éclatée. De deux.
D'où nous avons la DMP aujourd'hui.
De l'autre côté, pour faire un front, il faut se faire accompagner par les populations, par les militants. Est-ce qu'on a remis en confiance ces militants, on a redonné confiance à ces militants-là qui on appelle d'aider l'opposition de sortir dans les rues pour arracher la libération du Togo en 2025. Il y a des questionnements. Mais si on reste là, on dit on va créer un front pour libérer le Togo en 2025. Vous allez libérer comment? Vous avez quels moyens pour venir libérer le Togo en 2025? Les moyens dont on dispose, dont l'opposition dispose, c'est la population. C'est son peuple. C'est ceux-là qu'on mobilise pour aller. Cette population ou ce peuple, depuis des années, est découragé des actions et de l'éclatement de ces fronts et de ces regroupements de l'opposition qu'on a connus depuis. Il y a une sorte de déception au niveau de cette population. Et beaucoup, les gens ne veulent même pas en entendre parler. La C14, c'est devenu quoi? Après quelque temps, on a vu la C14 s'est éclatée. Et en 2020, il y a même des gens qui sont restés dans ces 14, d'autres sont partis pour dire qu'on va aller aux élections. Moi, je parle des récents, ces 14 dynamiques. Est-ce qu'on a fait la situation de ces gens de choses avant qu'on ne sorte pour dire qu'on va construire un front pour aller arracher bien la libération du Togo? Mais je pense qu'il ne faut pas prendre les populations ou bien l'opinion pour de n'importe quoi, comme si des gens ne pensent pas. Si vous restez et vous rêvez de quelque chose, et vous sortez, vous faites un discours, vous dites que nous allons faire ceci, nous allons faire cela, mais ayez des moyens. Mais dites que nous avons ces moyens-là pour la mobilisation de la population. La confiance est partie depuis des années au niveau de la population. Et personne ne peut nous dire aujourd'hui que s'il y a des choses... Aujourd'hui, ce qui se passe au Togo, ce n'est pas question de front et autres. Les gens disent qu'ils ont faim. Ils n'arrivent pas à manger. Mais le vrai problème au Togo, la vraie opposition au Togo, c'est la misère dont les gens, la pauvreté dont les gens parlent. Bien qu'au niveau du gouvernement, on est en train de se débattre pour sortir de cette situation. Mais lorsque quelqu'un, un politicien sort, ou que quelqu'un, un politicien, là, il va parler, et puis les gens vont sortir encore pour le suivre. Actuellement, depuis qu'on a fait ces fronts-là, ces fronts, ces 14 et autres, les gens sont en prison. Les gens sont en exil. Qui les a sauvés? Les gens sont des blessés qui sont là à la maison. Personne ne s'occupe d'eux. Vous avez redonné confiance à cette population, à ces peuples-là, pour leur dire on va faire un front. Bon, il faut voir même ceux-là qui appellent à la formation de fronts. Ces fronts sont détruits à cause de l'ego des uns et des autres. Entre l'opposition elle-même, là, est-ce que les gens sont rassemblés pour dire nous allons mettre à plat tout ce que nous avons comme problème et nous réorganiser autrement?
D'accord. Alors, Isaïe, est-ce qu'aujourd'hui, quoi qu'on dise, est-ce qu'on ne doit pas saluer la résilience de cette opposition, puisqu'il y a des gens quand même qui sont des figures hein, de cette opposition, qui sont restés dans cette résistance pratiquement 30 ans, et on les voit toujours sur la scène. Est-ce que finalement, il ne faut pas saluer aussi leur résilience? Parce que, comme le dira l'autre, il est très difficile alors de faire la politique au Togo, surtout de faire l'opposition au Togo.
Oui, très difficile de faire la politique au Togo, d'accord. Mais pourquoi devrait-on saluer la résilience d'une personne quand on n'a pas de résultats? Je crois que la question-là mérite d'être posée. Si on dit aujourd'hui que les gens sont résilients, bon, d'abord, en quoi est-ce qu'ils sont résilients? Parce qu'ils ont tenu pendant longtemps. Le fait de tenir pendant longtemps et de ne pas produire les résultats pose plutôt un problème.
Le plaisir pour l'acquérir, écoutez Canal FM 93.5.
Nous sommes de retour dans cette émission Club de la Presse et toutes nos excuses parce que nous avons été coupés entre temps par la suite et il y avait une interruption alors de courant électrique bien sûr chez nous. C'est ce qui a fait que à un moment donné nous avons été coupés chez vous. Alors nous revenons en studio alors pour notre débat. Alors nous sommes en train de parler de cette exigence de la DMK, qui exige un front national de libération pour sauver le Togo en 2025. Et Isaïe, effectivement, je vous posais la question de savoir aujourd'hui, est-ce qu'il ne faut pas vraiment saluer cette résilience de la classe de l'opposition, parce qu'il est dit hein, par certains même d'ailleurs qu'il est difficile de faire la politique au Togo, surtout d'être dans l'opposition.
Oui, et je répondais justement pourquoi doit-on parler de résilience quand on sait que les résultats n'accompagnent pas. Et je me pose cette question, résilience en quel sens? Dans la mesure où on sait que les acteurs de l'opposition n'ont pas été en tout cas constants, vous les verrez par moment aujourd'hui dans tel regroupement qui ne partagent pas forcément les idéologies de leur parti, mais ils y sont quand même. Demain vous les verrez plutôt dans une autre organisation.
Mais est-ce que c'est pas la diversité d'opinion qui fait aussi la politique?
La diversité d'opinion, d'accord, mais quand on a une idéologie qu'on défend et qu'on, à un moment donné, on les laisse pour aller s'associer à d'autres qui ne partagent pas forcément cette idéologie, ce qui voudra dire que quelque part, nous-mêmes, on n'est pas sérieux avec ce qu'on fait, si je peux me permettre de m'exprimer ainsi, on n'est pas sérieux nous-mêmes avec ce que nous faisons. Donc moi, personnellement, je ne pense pas qu'il s'agisse d'une question de résilience jusqu'à ce que on va saluer cette résilience. Donc pour moi, je ne vois pas de résilience. Je sais quand même qu'il y a des efforts qui sont faits au niveau des acteurs politiques pour que la vie politique du Togo s'anime. Mais au même moment, on attend plus d'eux. Certainement, ils diront qu'ils en ont donné assez, mais la population attend plus. Parce que vous savez, quand vous faites des efforts et que les résultats n'accompagnent pas, on ne voit pas du tout l'effort que vous faites. Donc, il faut qu'il y ait des résultats qu'on doit brandir pour qu'aujourd'hui, on puisse dire, voilà, l'opposition togolaise est en train de faire ci ou ça. Du moment où il n'y a pas ces résultats qui suivent, on ne peut pas parler, en tout cas de mon sens, qu'on ne peut pas parler de résilience. Il y a plutôt problème au niveau de l'opposition que l'opposition doit s'asseoir pour régler.
Est-ce que l'opposition togolaise n'a pas donné assez pour cette question même d'ailleurs de démocratie?
J'ai bien envie de vous demander de me faire un bilan de ce que l'opposition togolaise a donné. Si vous pouvez me dresser un bilan, ça m'édifierait mieux. On sent, oui, l'opposition togolaise est là, mais les résultats concrets, on en manque. Si on va faire peut-être un petit brainstorming, on a quand même l'impression que tout se résume en fait à la conquête du pouvoir. Je suis d'accord que quand on se lance dans la politique, la finalité c'est de conquérir le pouvoir. Mais quand tu vois un peu les questions sur lesquelles sont plus chaudes les opposants, c'est les questions qui ont trait aux élections tout de suite. L'opposition est arrivée à avoir le nombre de sièges à l'Assemblée qui est passé de 91 à 113. Mais malheureusement, elle n'a pas pu avoir même la majorité des sièges à l'Assemblée. Le pouvoir encore tout près. Quand on a parlé du cadre électoral, oui, les débats sont animés, il faut faire. Même si elle dénonce parfois, on se demande c'est quoi leur moyen de pression ou les moyens d'action dont elles disposent pour arriver à la fin de leur objectif. C'est pourquoi je parlais à l'instant des déclarations. On a comme impression qu'on fait juste des déclarations pour assurer la visibilité et faire d'autres actions derrière que nous ne maîtrisons pas forcément. Donc si, je vais peut-être rebondir un peu sur la question précédente, si le mot résilience doit être appliqué à quelqu'un, moi je l'applique plutôt à la population togolaise. C'est la population togolaise qui a été résiliente depuis des années et continue pas à l'être. Et là, spécialement, bravo et carton vert à la population togolaise. Quant à l'opposition, on manque vraiment de résultats. Et quand on est dans une lutte depuis 30 ans et depuis 40 ans, on n'a pas de résultats. On se demande, mais qu'est-ce qui ne va pas? Il faut se questionner soi-même et reculer un peu pour mieux sauter. J'ai parlé à l'instant des fronts, des regroupements qui se font, qui se défont. Parfois, on a comme impression que ces regroupements même ne sont pas convaincus de ce qu'ils font. C'est pourquoi dès qu'il y a une peccadille, ça s'éclate tout de suite. Et quand toi-même, tu n'es pas convaincu de ce que tu fais, comment tu peux convaincre l'autre de te suivre? Comment tu peux convaincre l'autre de mener la lutte communément avec toi? Donc, moi, personnellement, dire que l'opposition a beaucoup donné, on voit plutôt une lutte personnelle au lieu d'une lutte collective. Et tant que l'intérêt général ne sera pas mis en avant, je crois qu'il reste beaucoup à faire.
D'accord. Abbas, vous avez aussi la même impression qu'il y a plutôt une lutte personnelle et non collective?
Il y a une lutte personnelle. C'est pour des intérêts personnels que les gens sont là. Quand vous dites que l'opposition a beaucoup donné, je ne pense pas. C'est les populations qui ont beaucoup donné. C'est la population qui a payé le plus lourd tribut depuis le début de cette lutte, depuis 90 jusqu'à nos jours. La population a payé le plus lourd tribut. Et qu'est-ce qui s'est passé? Parce que pour cette population, elle avait confiance à certains leaders de l'opposition qui vont dire qu'ils vont changer la donne. Mais depuis plus de 30 ans, c'est toujours la même rengaine. Rien ne change. On va de regroupement en regroupement. Et au sein de ces regroupements, même, il y a des problèmes. Les gens se querellent. Et les gens même se font des tacles au sein d'un même regroupement pour dire que tel, si c'est tel qui a la tête, ça ne peut pas passer. Et les gens sont arrivés même à faire des présidents tournantes. Mais rien n'a marché. Donc, ce qui veut dire qu'il y a un problème. La population a donné une confiance totale pour que la lutte soit gagnée. Mais ceux-là qui les ont dessus, qui a dessus cette population, c'est les leaders de l'opposition à cause de leur ego, égocentrisme. Et lorsque les gens sortent maintenant pour faire des déclarations, ça n'emballe plus les gens. Vous faites déclaration, vous dites que vous trompez, c'est tout comme des effets d'annonce que les gens font. Nous allons faire ceci, nous allons faire cela. Nous, c'est ici, en 2018, on est là. Au mois de la C14, on doit organiser les élections législatives. On a crié que ces élections législatives là n'auront jamais lieu. Même à la dernière minute, il n'y aura pas élection. Dernière seconde même, il n'y aura pas élection. 2018, qu'est-ce que la C14 a pu faire pour empêcher ces élections? Les élections de 2010 ont lieu. Les gens ont boycotté ces élections, mais l'Assemblée, la législature, la mandature s'est passée sans problème. Et c'est là où on disait qu'on a. Quelqu'un a dit, mais quelqu'un laisse, quelqu'un prend. Donc, au niveau de l'opposition, il y a des problèmes. Mais moi, il faut donner, saluer. Et la résilience même de la population elle-même.
D'accord.
Qui a payé le lourd tribut.
Oui, après, aujourd'hui, la proposition, c'est quoi? Est-ce qu'il faut vraiment le renouvellement même d'ailleurs de cette classe de l'opposition?
On ne renouvelle pas une classe de l'opposition. C'est à elle de comprendre ce qu'elle fait, ce qu'elle veut. Les gens sont là depuis des années, mais il y a des choses. On a vu en Côte d'Ivoire, la classe politique est toujours là, les mêmes. Donc, c'est à eux de travailler. S'il faut renouveler la classe politique, c'est entre eux, au niveau de la classe politique, de voir comment ça se passe. Parce qu'on ne peut pas avoir les mêmes choses depuis même le temps de Feu et Adema. Des gens, des leaders de l'opposition qui luttent, qui ont lutté contre Feu, Nyasimbe et Adema, aujourd'hui, ils sont toujours les mêmes qui s'assiedent sur la table de discussion.
Et est-ce que c'est pas en cela qu'on doit parler plus de résilience?
Non. J'ai dit, on ne peut pas parler de résilience. Pour parler de résilience, il faut saluer la population togolaise qui s'est donnée.
D'accord.
La population. On ne peut pas parler de la résilience de l'opposition.
D'accord. Esaïe, je m'intéresse à votre une. Ce matin, vous écrivez, vous êtes revenu sur le budget 2025. Et votre une, je parle bien sûr de votre journal Focus Info. Vous écrivez budget 2025, les détails, grands angles. Et les grands angles, c'est au niveau de la page, il y a la page 8, page 9, page 10, page 11 et page 12, où vous faites un grand déballage alors sur ce budget 2025.
Et justement, nous sommes partis de l'évolution du budget depuis 2015. On a fait un rapprochement comment le budget a évolué. Et pour précision, depuis 2015 à 2025, le budget a évolué de 188%. Et le travail que nous avons fait aussi, c'est de classifier les ministères selon le budget que chacun a reçu. Et le ministère qui a reçu le plus gros budget pour le compte de cette année, c'est le ministère des enseignements primaires et secondaires. Et d'ailleurs, ça fait la cinquième année consécutive que ce ministère reçoit le plus gros budget. Et cette année, le budget du ministère des enseignements, c'est 183 milliards de francs CFA. Et pour le plus petit budget, le ministère qui a reçu le plus petit budget, c'est le ministère du développement, de l'aménagement et du développement du territoire, qui a reçu moins de demi-milliard. Enfin, moins de 1 milliard.
Voilà, moins de 1 milliard, c'est
oui,
ça?
Oui, précisément, environ 500 millions de francs CFA, alors que la plupart des ministères sont dans les milliards. Et nous avons aussi précisé ce que chaque ministère fera avec le budget qui lui est octroyé. Et dans le top 3, après le ministère des enseignements, il y a le ministère des armées qui vient en deuxième position. Vous savez qu'aujourd'hui, le pays est confronté à des défis sécuritaires. Donc, ça fait que le budget du ministère des armées est légèrement augmenté. Cette année, le ministère des armées reçoit 119 milliards de francs CFA comme budget. Et après vient le ministère de la Santé. Nous savons tous aujourd'hui que le pays est en chantier en ce qui concerne l'assurance maladie universelle. Et donc le ministère de la Santé a reçu pour le compte de cette année de 2025 un budget de 114 milliards de francs CFA. En tout cas, ceux qui liront le journal verront en tout cas l'évolution du budget de chaque ministère. Nous avons aussi parlé des budgets qui sont octroyés aux institutions de la République. Et pour précision, c'est la présidence qui vient en tête avec un budget de 26 milliards de francs CFA. Et la présidence est suivie de l'Assemblée nationale avec 7 milliards. Et vient la primature qui a environ 1,5 milliard de francs CFA. Donc vous verrez le budget de la HAC, le budget de la Cour constitutionnelle, tout est précisé dans le journal avec les activités ou encore les actions que ces institutions auront à mener au cours de l'année.
Et tout est à retrouver dans votre journal Focus Info. Alors, SL, quand on prend déjà le gros lot du budget qui a été accordé au ministère de l'Éducation, est-ce que ça veut dire que la priorité aujourd'hui est plus mise sur l'éducation?
Oui, le chef de l'État l'a dit à demi-mot dans son discours la dernière fois, les défis sécuritaires et puis le social, aujourd'hui c'est vraiment important. On ne peut pas gouverner des malades ou des têtes pas bien faites dans un pays. Donc, c'est des domaines dans lesquels il faut vraiment investir pour garantir d'abord la santé des populations, ensuite la sécurité, puis sur rien ne peut se dérouler si on n'a pas la paix dans le pays. Hein. Ça, il faut le dire. La paix, donc, relever ces défis sécuritaires, là, c'est en cela qu'il avait demandé personnellement que ce budget soit revu à la hausse. Et il était même la dernière fois sur le terrain pour donner encore plus de punch à nos braves forces de défense et de sécurité. Mais pour l'éducation, il n'y a pas un débat là-dessus. Hein. L'éducation dans un pays, c'est la base, c'est le socle. Une population sans éducation, ça navigue à vue, il n'y a pas de repère. Et c'est normal qu'on puisse investir dans l'éducation, d'accord, dans la santé, dans la sécurité, avec les défis actuels auxquels nous sommes confrontés.
D'accord. Alors, Abbas, quand on prend l'aménagement et le développement du territoire, alors on réserve moins d'un milliard de francs CFA pour ce département ministériel. Est-ce que ça se comprend?
Non, ça se comprend pas, parce que c'est pas... On parle de l'aménagement du territoire et développement même. Parce que quand on parle de ce secteur, c'est le développement des communes. La décentralisation, là, on devait avoir plus de moyens là-bas. Puisque ce ministère travaille de commun accord avec le ministère de la Santé.
Signalons quand même que ce ministère est dirigé par le ministre Gomadou.
Oui. Donc, vous voyez, à chaque fois, c'est lui-même qui réunit, rassemble les maires pour leur parler du développement. Donc il faudrait qu'on mette beaucoup de moyens, comme on a opté pour la décentralisation, que beaucoup de moyens devaient être mis à ce ministère-là pour aider au développement des communes. Parce que lorsque vous prenez une commune, je ne sais pas comment le ministère de l'Administration territoriale, parce que je pense que c'est à cause de certaines choses à ANADEB, ou bien il y a ANAZAP, ou bien ANADEB.
Vous voulez parler de l'ANADEB?
ANADEB, oui. Qui est dedans, je ne sais pas s'ils travaillent de commun accord avec eux, sinon...
Agence nationale pour le développement à la base.
À la base. Et au niveau du ministère de développement du territoire, beaucoup devait être fait. Le budget devait être fait. Vous savez que maintenant, il y a eu beaucoup de ministères qui ont été créés, les nouveaux ministères, parce qu'on fait le budget par programme. C'est un budget programme qu'on exécute maintenant. Donc, des ministères ont été créés tout dernièrement, les nouveaux. Et ça fait que certains ministères ont vu aussi leur dotation diminuer. Donc, il faudrait qu'à l'avenir, pour le ministère de l'aménagement du territoire, il y a assez de moyens et qu'il y a assez de moyens.
D'accord.
Peut-être il faut rappeler, parfois pour l'élaboration des budgets aussi, tout se passe selon l'utilisation qui a été faite du budget précédent. Hein. S'il y a des reliquats, on estime que, bon, vous n'avez pas eu assez d'activités ou c'est pas s'il n'y a pas trop de besoins, on s'appesantit sur...
Mais c'est un ministère qui est nouvellement créé.
Qui est nouvellement créé, oui, bien évidemment. Mais en même temps, il faut aussi rappeler que le budget est élaboré au début, mais il y a des ajustements également qui se font au fur et à mesure, je crois, en juin et avant la fin de l'année également. Donc, peut-être, chemin faisant par rapport à l'exécution des tâches ou par rapport à la tâche qui sera devant, on peut procéder toujours à des ajustements pour améliorer ou ajuster.
D'accord, nous allons nous transporter au Ghana, tel que je le disais dans mon mot introductif, 8 ans après son départ du pouvoir, John Dramani Mahama fait son grand retour à la tête alors du Ghana, qui est l'une des démocraties rassurantes hein, du continent africain. Zahi, finalement, quand on a vu l'investiture, la cérémonie d'investiture hier à travers nos petits écrans et tout sur l'internet, et c'était beau quand même l'alternance.
Oui, c'est beau ce qui s'est passé hier au Ghana. Déjà depuis le 7 décembre à la proclamation des résultats, on a salué ce qui s'est passé au Ghana et on va continuer toujours par saluer le processus. Maintenant, ce qui est important et qui est intéressant, qui intéresse d'ailleurs la population, c'est le travail que fera le président Dramani, puisqu'il est déjà investi, bien avant qu'il ne soit investi dans sa nouvelle fonction. Il a commencé déjà par faire le tour de certains pays pour voir comment travailler avec ces pays. Ça démontre déjà quand même l'engagement de ce dernier à continuer par amener la population ghanéenne vers une destinée rassurante. Et c'est ce que nous pouvons saluer. Maintenant qu'il est investi, il y a un travail qui l'attend. Et c'est là où, je le disais tantôt, c'est là où la population l'attend le plus. Et c'est à la fin de son mandat qu'on va saluer également le travail qui a été fait. Et ce sera encore plus beau si un travail accompagne ce qui s'est passé hier.
D'accord, ce serait vraiment beau si un travail accompagne ce qui s'est passé hier. Alors, Abbas, est-ce que vous avez compris quand même la présence de beaucoup de chefs d'État et surtout de gouvernement aussi à cette cérémonie d'investiture, j'allais dire, hier au Ghana?
Eh bien, il faut le comprendre parce que lui-même, avant son investiture, a effectué des visites dans les capitales, certaines capitales,
notamment Lomé.
Lomé, Burkina, pour inviter personnellement les présidents.
Et on a vu la présence même d'ailleurs du capitaine Traoré qui fait son déplacement pour une première fois justement dans un pays.
Donc, vous voyez qu'on ne peut pas dire qu'on est surpris d'avoir ce nombre de populations. Puisque Maman, après 8 ans, on a vu, il est revenu battre celui-là qu'il a battu au pouvoir. On a vu même les anciens présidents qui étaient là à l'investiture. Il y a quelqu'un qui était dans le fauteuil roulant. Ce sont
John Kufuor.
L'ancien président
oui.
Qui était dans le fauteuil. Donc, vous savez que le Ghana était un pays, les pays anglophones surtout, c'est des pays où il n'y a pas de problème d'alternance, surtout qu'au niveau du Ghana, J.J. Rawlings est venu mettre de l'ordre et celui qui devait faire des problèmes, il va avoir des problèmes. Même pour cette élection, moi j'étais au Ghana pendant les campagnes, l'autre voulait refuser, il disait que s'il y a quelque chose qui ne va pas, il n'y aura pas de chemin. Finalement, il a été calmé et tout s'est passé dans de bonnes conditions et les résultats ont été donnés sans problème.
D'accord. Déjà, quand on a vu tout cela, le processus jusqu'à ce que l'investiture n'ait lieu hier, là, on pourra dire quand même que la démocratie s'est encore prononcée au Ghana.
Oui, la démocratie est en marche. En Afrique, on peut citer sans retenue au moins 2 pays dans lesquels la démocratie et fait vraiment des preuves. On peut citer le Sénégal, on peut citer le Ghana. Donc, on a vu tout ce qui s'est déroulé, les anciens présidents.
On ne peut pas oublier aussi le Bénin à côté.
Le Bénin là. Donc, tous les anciens présidents se sont regroupés autour du nouvel élu. Et c'est dans une ambiance cordiale et respectueuse que les choses se sont déroulées. On a senti l'engagement du nouveau président qui a promis de relever les défis sécuritaires, économiques et sociaux. On a vu déjà qu'il avait pris son bâton de pèlerin au lendemain de son élection et a choisi même de visiter également le Togo. C'était des liens diplomatiques qui se tissaient ainsi. Donc, il est bien parti. Il a la bénédiction de ses pairs et je crois qu'il relèvera ce défi-là. On n'est pas sans savoir que depuis 2022, le Ghana traverse aussi une crise économique depuis l'ancien président. C'est ce qui a justifié même son départ lors des dernières élections. Donc, il a du pain sur la planche, mais je crois qu'il est bien parti pour relever ses défis.
Il faut préciser quand même qu'il est là pour son second mandat.
Pour son second mandat. Il avait déjà fait de 2012 à
2017.
Voilà. Donc, c'est le deuxième mandat, mais qui est interféré, bien sûr. Donc, bon vent à lui et qu'il comble les attentes des Ghanéens.
Et comme ça, après avoir terminé ce mandat, il ne reviendra plus.
Non, c'est fini.
D'accord, merci. Merci beaucoup, chers confrères. Nous allons maintenant donner la parole à nos auditeurs. Et c'est sur le 90 86 35 35 91 36 63 75 et également sur notre numéro WhatsApp 90 45 78 57. Mais bien avant, nous faisons un clin d'œil à nos annonceurs.
93.5 Canal FM.
Nous sommes de retour dans cette émission Club de la Presse et maintenant, nous nous ouvrons à vous. Vous pouvez nous appeler au 90 86 35 35 91 36 63 75. Premier auditeur en ligne. Allô?
Oui. Allô?
Bonjour Pélé.
Bonjour.
J'espère que vous allez bien.
Très bien.
D'accord, allez-y.
Ok, je pense que je salue le plateau.
Et le plateau aussi vous salue.
Oui. Comment les Togolais peuvent faire pour faire comme le Ghana? Ce qui s'est passé hier. C'est la préoccupation majeure maintenant au Togo. Comment on peut faire pour que la tenance paisible, quelqu'un qui a quitté le pouvoir et revenir, comment on peut faire ça pour être à l'aise dans le pays? Maintenant, pour revenir au Togo, vous parlez de l'opposition, ce que l'opposition a échoué, ou bien ils n'ont pas donné ce qu'il faut donner. Effectivement, quand vous cherchez quelque chose et que vous ne la trouvez pas, vous n'avez pas encore atteint votre objectif. L'objectif, c'est quoi? C'est la tenance. Qui bloque la tenance? C'est ça qu'il faut poser. Si nous prenions les élections en 1998, celui qui devait prononcer la les résultats, est-ce que ça a été fait? Les élections étaient sorties dans leur cadre. Ça veut dire que quand vous parlez de l'opposition, il faut d'abord parler du pouvoir qui confixe le pouvoir, c'est un RPT qui confisque le pouvoir avec la force brutale. Je pense que pour aller au pouvoir, c'est soit deux options, soit par les urnes, soit par le métier, les armes que les gens prennent, que l'opposition ne veut pas aller. Je ne sais pas si vous demandez maintenant à l'opposition de prendre l'option du ministre Christian Trimoy. Alors, je pense qu'il faut qu'on soit cohérent aujourd'hui que le RPT ne veut jamais laisser rien. Il ne faut jamais parler de ce qu'on appelle la tenance. C'est de ça que les journalistes, tout le peuple togolais, doit être debout pour combattre ce régime qui ne veut jamais aller à la tenance. Vous voyez?
Merci beaucoup.
Oui, il faut qu'on soit clair.
Oui, merci Pélé pour votre intervention. 90, 86, 35, 35, 91, 36, 63, 75. Allô?
Allô, bonjour.
Bonjour, monsieur Gado.
Bonjour plateau.
J'espère que vous allez bien.
Il ne faut pas tout déverser, hein. On a aussi d'autres personnes dans la ligne. Bon, moi je voudrais demander au plateau, il faut nous expliquer au moins, pourquoi les gens ne veulent pas quitter le pouvoir. Pourquoi je veux savoir ça, pourquoi les gens ne veulent pas quitter, alors que d'autres annoncent même leur départ avant la date d'échéance des élections, et d'autres même font un mandat éthique. Pourquoi les autres ne veulent pas quitter, voir chercher une super boulot pour coller le prélude pour te présenter à leur fête? Regardez pas bien, ils ne connaissent même plus sa date de naissance. Ils ne veulent pas partir. Regardez ça, c'est une question. Mais tout ça là, pourquoi? Secondo, plateau, vous savez le problème du Togo. Moi, c'est les élections, les résultats. Mal préparé là. C'est ça le problème, hein? Bon, peut-être pas le président qui a fauté, d'accord. Mais le problème, c'est les résultats qui sont truqués. Même l'ambassadeur des États-Unis ont demandé de recompter la voix. Est-ce qu'on a accepté? Le Ghana, regardez, à peine deux jours, on connaît déjà la fête. Donc, je vous en prie, dites-moi pourquoi les gens ne veulent pas quitter le pouvoir. Si c'est à l'amitié, on va leur donner. Merci, bonjour.
Allez, bonne journée à vous aussi, monsieur Gado, et merci pour votre intervention. Allô?
Bonjour.
Bonjour, madame ici.
Bonjour, je vous remercie à Gabo là-bas. Je sais qu'il y a de bon chez vous.
Pardon?
Voilà. Ça se va bien. Je sais que le pays aussi, hein, par la rate, hein, avec l'argent du pays, quoi. Bon, vous avez parlé de tout, la même chose tous les jours. Ce qu'on fait, là, ce qu'on fait, ça dépend du développement du bien-être. C'est interdit dans la Constitution. Qu'un pays va passer sa vie à débattre. Non. C'est pour ça qu'on a une constitution dans une république été établi sur la limitation de mandat de 1 et à 5 ans, comme au Togo, comme en France, quoi. C'est-à-dire, c'est un mandat de 5 ans. Ce que vous dites de renouvelable une fois tout ça là, c'est pas vrai. C'est faux, c'est pas vrai. Et puis, qu'est-ce que vous voulez? On est là, lorsqu'en 2020, le Togo a chargé un seul opposant, qui est le leader de l'ANC. Un seul opposant que le Togo, avec la BNK, ont chargé pour, c'est pas pour l'affaiblir, pour le détruire, on sait pas. Alors que cette personne n'a jamais collaboré avec le système. Et maintenant, les journalistes, vous nous disiez dans le temps qu'il n'y a plus d'opposants, il n'y a plus d'opposition. Et maintenant, vous parlez encore de l'opposition. Laquelle? Vous aviez enterré l'opposition, vous aviez dit non. Si on comprend bien, il n'y a que le leader de l'ANC qui n'a jamais collaboré, qui est le seul opposant, le vrai. Si on comprend bien. Et maintenant, tout ça là, comme on perd le temps là, il faut qu'on s'organise en partie civile pour porter plainte, c'est tout. On va arrêter tout ça là. Tout le monde sera bien, même le reste.
D'accord. Merci, Madame Messi, pour votre intervention. Allô?
Allô?
Bonjour.
Bonjour.
C'est Monsieur Nyamavo.
C'est Nyamavo, chef.
Allez-y.
C'est courageux de dire que la faute est à l'opposition. Même les Sénégalais traitaient les Togolais de poltrons. Il n'y a pas longtemps, Guy Sagna a essuyé le coup ici. Il a su ce que c'est que le Togo. La CDAO sait ce que c'est que le Togo. La communauté internationale sait ce que c'est que le Togo. Comment la politique marche au Togo. Et vous dites que l'opposition ne se donne pas. Où? Les gens n'arrivent même pas à se réunir à leur siège. Comment vous voulez qu'ils se donnent? Regardez un peu à l'intérêt du pays, comme le décrivent les paysans. Qui va oser faire partie de l'opposition? Il ne va pas dormir chez lui la nuit. Nous, sous nous, nos yeux. On est rentré sur les gens les frapper correctement, les molester. Ils nous nient tout simplement parce qu'ils faisaient partie de l'UFC à l'époque. Et vous avez dit que l'opposition ne se donne pas. Et le résultat des urnes. Et à Claire Soboko. Bon, qu'est-ce qu'il a? Pourquoi il mérite l'étranger? Et vous ne vous posez pas ces questions. Et vous allez dénigrer l'opposition parce que vous avez la force. Dites que c'est la dictature qui nous dirige, il n'y a pas de la démocratie. Que de vilipender l'opposition, non. C'est pourquoi vous avez vu que les Togolais sont fatigués de la politique et la dernière élection, ils ne sont pas sortis. Vous allez voir que le Togolais, comment l'UNIR a expérimenté un coup KO. L'opposition s'attendait à deux tours. C'est pourquoi ils allaient nombreux. Ils pensaient qu'il y avait la démocratie, non? Mais un coup KO est devenu zéro coup KO avec la 5e République. Il y en a plus. Donc vous allez dire que l'opposition fait quoi? Avec ça, on a vu maintenant le bourg. De toute façon, que le bourg, si tu n'as pas de pièces, même on te ramasse. Parce qu'on sait qu'on vient asseoir les institutions. Bonne émission.
Merci, Monsieur Nyamavo, pour votre intervention. 90-86-35-35, 91-36-33-75. Drapeau togolais manque de pédagogie, oui, et cela ouvre la voie des spéculations. Pourquoi le pouvoir aime le flou, même autour des sujets mineurs? Le Togolais a besoin de vivre dignement, manger à sa faim et se soigner correctement quand il est malade. C'est une réaction de Maglibé depuis la Belgique. Allô?
Allô?
Oui, bonjour Papa Sibiti.
Bonjour mon directeur.
J'espère que vous allez bien.
Je vais bien. Dieu bonjour merci. Tout le plateau. Bonjour à mère, les enfants de mon patron Kondio et Isidore. Et je voudrais vous demander d'écouter ce que M. Abbas Taka venait de dire. Vous savez, la politique est un rapport de force. Quand on dit l'opposition, le nom, ce que moi je voudrais souhaiter, demander à l'opposition, ne touche pas à ma condition, le président de la République, Fornia Sibé, notre président de la République, que l'opposition aille le voir comme ça se fait. Parce qu'ils se mettent ensemble, ils discutent. Est-ce qu'on ne peut pas le faire, mon directeur et Pascal? Asseyons-nous, président. Tout le monde dit que ça là, ça ne va pas. Ça, ça va. Qu'est-ce qu'il faut faire? Au lieu d'aller à nos choses, non. C'est ce que moi je vous propose. En tant que doyen, en tant que sage, connaissant la politique, PIC, Progrès, ICPN. Allez voir le président de là. Accueillez-vous avec eux, avec lui. Demandez, excusez-moi, demandez l'audience. Il ne va pas vous renvoyer toute l'opposition. Et ne suis pas ma constitution, M. David, président David Dossin. Merci beaucoup.
Merci à vous aussi, Papa Sibiti, pour votre intervention. 90-86-35-35.
Allô? Allô?
Oui, bonjour.
Bonjour, Pascal.
C'est Patrick.
C'est Patrick.
D'accord, allez-y.
Je salue tout le monde.
Mm.
Vous savez, en effet, on dit, « Back au saut d'Isien à nos viewers, il y a la saut d'Isien au temps. » Le bol avec lequel ton serviteur prochain, on te servira avec le même bol. Le portion togolaise, le coup bas fait à la population, vous l'avez si bien dit, dans cette affaire, c'est la population qui perd, c'est la population qui souffre. Eh bien, si vous voulez défendre une cause et que le matin vous faites face à cette population et la nuit, vous irez discuter d'autres choses. Et dans tout ça, là, la population n'est pas présente. Comment voulez-vous que ça aille? Comment voulez-vous que ça puisse marcher? Eh bien, nous préférons un voleur qu'on connaît qu'un sorcier qu'on ne connaît pas. Puisque à la lune, les choses vont parmi ceux qui sont là présentement, qui disent qu'ils vont lutter pour la population. Il n'y a personne. Tout le monde pense à son ventre. Nous sommes plus des enfants dans ce pays. Tout le monde passe à son ventre. On te donne un petit poste là. Allez-y voir ce qui se passe. Mais c'est anormal. On préfère un voleur qu'on connaît qu'un sorcier qu'on ne connaît pas. Bonne émission.
Merci Patrick pour votre intervention. Je pense que Patrick, c'est le dernier auditeur pour le compte alors de cette émission de ce mercredi. Nous revenons en plateau pour faire un dernier tour de table et clôturer l'émission. Chers confrères, vous avez écouté les uns et les autres se prononcer sur les sujets débattus ici au Club de la Presse. C'est le principe de l'émission. Et on donne la parole aussi à nos auditeurs d'intervenir et de donner leur point de vue aussi sur ce que nous avons fait comme débat en studio. Esaïe, vous avez écouté les uns les autres. Quelle est votre réaction?
Non, ma réaction par rapport à ces interventions, je dirais, je crois qu'il n'est pas du rôle du journaliste d'aller dire à telle ou telle personne de quitter le pouvoir ou de dire à telle personne de venir ou encore de montrer à telle ou telle personne comment faire pour accéder au pouvoir. Nous sommes dans notre rôle de commenter l'actualité, d'analyser, et je crois que nos analyses, nos commentaires peuvent aider les acteurs, que ce soit politique ou économique, à prendre des décisions, mais nous ne pouvons pas leur tirer tout de suite ce qu'ils doivent faire exactement. Parce que je crois que c'est ce que la plupart des auditeurs demandent, pas aujourd'hui, régulièrement c'est ce qu'ils demandent, et je crois qu'ils doivent comprendre aussi que le rôle du journaliste n'est pas de faire ça. On peut faire des commentaires qui vont édifier, qui vont aider les décideurs à prendre des décisions.
Merci Esaïe. Je reste avec toi pour ta note de fin d'émission. La note, c'est de 0 à 10, et c'est adressé soit à une institution ou à une personnalité du pays.
Alors, si je dois adresser une note, je donnerai une note de 4 à la société qui a commencé cette semaine encore avec des coupures, mais il n'y a pas eu de communiqué pour prévenir d'avance la population que ça va commencer. On est tombé dedans. Je crois qu'on a fait... On fait souvent ces reproches à la société, ils améliorent par moments, mais ils retournent encore aux vieilles habitudes. Je crois que avec cette note, ça va les amener à revenir avec des communiqués pour prévenir d'avance la population.
4 sur 10, c'est médiocre, hein?
Bien sûr.
D'accord. Oui, Estelle?
Non, je n'ai pas pour habitude de commenter les commentaires des auditeurs et auditrices, mais je voudrais juste préciser que nous ne jetons pas l'anathème sur l'opposition. Nous faisons juste des analyses sur les faits que nous observons et que tout le monde voit également. Je n'ai pas eu envie de ressasser certains faits concrets où l'opposition a eu plusieurs fois la chance dans ce pays de renverser la tendance, mais par rapport à des clivages internes, on a laissé passer. Le dernier fait en date, c'était en 2012 où Maître Agbouibo avait fait encore une proposition, mais c'est au sein même de l'opposition que cette proposition avait été rejetée. Et ce qui en est suivi, c'est la constitution qui avait été modifiée. Donc, il y a eu plusieurs occasions que les populations ou que les auditeurs souffrent qu'on rappelle quand même certaines choses qui montrent qu'il y a eu vraiment de la différence au niveau de l'opposition. Maintenant, le pouvoir, ça ne se donne pas sur un plateau d'or, ça ne s'offre pas. Jusqu'à preuve de contraire, les tests en vigueur actuellement au Togo, c'est à travers les élections qu'on peut avoir de l'alternance. Donc, il y a que par ce mécanisme que l'opposition peut renverser la tendance. Donc, de concentrer plutôt les énergies là-bas pour avoir cette alternance-là. Sinon, on ne va pas être dans le rêve qu'un jour, le pouvoir va se lever et dire, opposition, on vient prendre le pouvoir. Ça ne s'est jamais passé dans un pays comme ça. Donc, c'est les tests en vigueur que la lutte se fasse selon ces tests-là pour accéder à l'alternance. C'est tout ce qu'on peut préciser. Donc, pour le reste, je vais également donner une note de 2 sur 10 à la CET. Avant-hier, il y a eu coupure. Hier, il y a eu coupure. Aujourd'hui, on a assisté à une coupure. On met tout ça là sans aucune information en amont. Je crois que la CET devait retrousser ses manches pour qu'on ne subisse plus ces désagréments-là à cet entame de la nouvelle année.
D'accord. Merci, Estelle. Oui, Abbas.
Pas trop de commentaires. Chacun a son opinion et son point de vue sur la question. Quand nous avons dit ici que l'opposition a échoué, ce n'est pas une invention. Au niveau des leaders de l'opposition, eux-mêmes savent que ça n'a pas marché. Lorsque les gens tiennent, ils ne veulent pas qu'on dise que ça a échoué pour que l'opposition se corrige, c'est leur problème. Et on est là, on a fait un constat. On a dit que celui qui a payé le plus lourd tribut, c'est la population. Parce qu'au niveau de l'opposition, chacun sur son intérêt. Les leaders sur leur intérêt. C'est pour cela qu'il y a des égos. Et ces égos ont fait que leur lutte, la lutte qui est menée depuis plus de 30 ans, n'a pas réussi. Donc il faut que les gens sachent que c'est comme ça, ça se passe. Même que si on soutient quelqu'un, il faut aussi lui donner des choses pour qu'il se corrige, lui critiquer pour que les choses changent. Donc, quelqu'un a dit que nous pose la question comment est-ce que on peut on quitte le pouvoir ou bien comment il a dit.
Oui, c'est Monsieur Gado qui posait la question, savoir pourquoi certains ne veulent pas quitter le pouvoir et certains, quand il parle de certains, c'est des chefs d'État africains.
Ouais, peut-être que lui sera aussi à leur place. Il ne va pas chercher à quitter puisque il va avoir les délices du pouvoir. Il va se coller, il va coller ses fesses là sur ce pouvoir là. Donc il faudrait. Ça ne se donne pas. Le pouvoir s'arrache.
Mais il y a certains qui quittent.
Oui, certains qui quittent. C'est pour cela que je dis. Ça dépend.
Il y a toujours la délice, enfin les délices du pouvoir, mais ils quittent.
Ils quittent ou ils quittent avec quelque chose, avec un bon cœur. Est-ce qu'il est avec
un... Mais tout récemment, tout proche de nous, quand on parlait du Ghana...
J'ai donné l'exemple tout à l'heure que au Ghana, là, ce n'est pas du bon cœur que Akufo a quitté.
Ah bon?
Oui.
J'étais là. C'est dans le secret des dieux.
C'est dans le secret des dieux.
D'accord, Abbas. Merci beaucoup, Abbas Issaka. Et merci d'être passé dans cette émission. Ça fait plaisir de vous avoir dans cette émission. Je rappelle que vous êtes le directeur de publication du journal Le Moyen Libéré. Merci d'être passé dans cette émission. Esaïe Edo, merci d'être passé aussi dans cette émission. Vous êtes le rédacteur en chef alors du journal Focus Info. Merci d'être passé. Merci à Estelle Koudjonou d'être passé aussi, directeur ou directrice de publication du journal Gazelle Info. Merci d'être passé justement dans cette émission. Ça fait plaisir de vous avoir. Merci à vous tous qui nous avez suivis puisque nous sommes à la fin de cette émission. Merci à Kiki Sousa qui a assuré la mise en monde. La mise en ligne a été assurée par Jérôme Dakoutia. Je suis Pascal Ossou. Je vous retrouve demain jeudi à partir de 11h pour un nouveau numéro de l'émission Club de la Presse. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.